Nous avons une question notamment sur les aidants en danger. Que se passe-t-il si le malade est en EHPAD? Est-ce qu'il peut quand même être en burn-out?
Est-ce que des aidants peuvent être en burn-out alors qu'ils ont un proche en EHPAD?
Oui.
Alors, oui, mais à ce moment-là, c'est souvent, ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas accepté de déléguer auprès de l'EHPAD eh bien, tout le travail que l'on peut faire avec le malade, et ça, on voit ça, et c'est au rôle justement de l'encadrement de l'EHPAD d'expliquer que maintenant, eh bien, c'est à nous de prendre les choses en main, et vous avez le droit de vous reposer un peu et d'arriver détendu quand vous allez voir votre proche. Et puis, vous en avez aussi qui sont dans une culpabilité telle qu'ils sont complètement déprimés, donc c'est une autre forme de. C'est plus une forme de dépression que de burn-out. Mais oui! Amener quelqu'un dans un EHPAD ne résout pas tous les problèmes, mais ça peut être une solution, bien entendu, dès lors que ça se passe accompagné, aidé par du personnel qui a cette compétence.
Merci. Alors, des questions pour Stéphanie. À partir de quel stade de la maladie peut-on faire une ponction lombaire ?
Donc, en fait, une ponction lombaire, on peut la faire à n'importe quel stade. Mais enfin, l'idée, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il faut quand même avoir des symptômes. Déjà un petit déclin cognitif. Et puis, à un stade avancé de la maladie, ça peut aussi avoir moins d'intérêt. Donc, l'idée, c'est quand même de faire un diagnostic pour un plan de soins qu'on peut mettre en place. Voilà, l'idée, c'est plutôt de faire une ponction lombaire au stade débutant, modéré de la maladie, plus spécifiquement.
C'est le médecin, de toute façon, qui va orienter et décider l'acte.
Voilà, c'est ça. Ça répond à un certain nombre de critères. Et puis, on ne peut pas faire une ponction lombaire à tout le monde. Il y a des contre-indications aussi à cet examen. Il faut pouvoir... C'est un geste qui est quand même en partie invasif. C'est-à-dire que la personne à qui on doit faire la ponction doit quand même être d'accord pour qu'on fasse cette ponction, qu'elle comprenne de quoi, pourquoi on l'a fait. Et puis... Pour faire une ponction lombaire, il faut avoir une attitude penchée où on doit être, on doit maintenir cette position pendant quelques minutes. Et puis, il ne faut pas venir toucher ou bouger pendant le geste. Donc, il faut quand même comprendre le geste réalisé. Donc, il faut rester plutôt sage pendant l'examen.
Encore une question pour vous. Vous avez parlé des traitements actuellement sur le marché qui sont certes pas la panacée, mais qui quand même valent mieux que rien. C'est quoi ces traitements précisément, nous demande.
Donc, c'est les traitements, les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase que l'on connaît depuis une vingtaine d'années, qui sont en pharmacie, ils ont une AMM, mais ils ont été déremboursés en l'été 2018. Parce que la Haute Autorité de Santé a considéré que le service médical rendu n'était pas suffisant par rapport au coût finalement qui représentait d'un point de vue financier pour la société.
Les neurologues n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette analyse.
Voilà, les neurologues, les gériatres, les docteurs et les familles n'étaient pas du tout d'accord. Et puis, il y a des études qui montrent que, certes, le gain n'est pas majeur, mais c'est toujours mieux que rien. Et il y a toujours des études qui sont publiées, même encore, sur ces traitements. Et en Europe, on fait partie des deux ou trois pays qui ne remboursent plus ces traitements.
Des questions pour le professeur Dubois. Mon épouse a une maladie neurodégénérative diagnostiquée. Alors, comment est-ce qu'on prononce L-A-T-E. Late. Donc, dans votre hôpital, quelles sont les perspectives d'évolution? Est-ce que là, on est dans autre chose que ce qui nous anime aujourd'hui?
Non, c'est intéressant. Le late est un nouveau syndrome, un nouveau concept, et qui se traduit par des troubles de mémoire isolés et un peu évolutifs, mais qui ne vont pas déborder sur autre chose. Donc ça reste compatible avec une certaine autonomie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Quitte à choisir, je préfère être late qu'Alzheimer. Alors on voit ça chez des patients un peu âgés, et c'est une sorte de syndrome amnésique qui reste enkysté. Ça va être une maladie de l'hippocampe isolée, ça ne diffuse pas. Et donc, c'est compatible avec une vie quasi normale. Bon, on a quand même des troubles de mémoire.
Et avec des traitements possibles pour atténuer ces symptômes?
Alors, je reviendrai à ce qui a été dit avant, c'est ces fameux médicaments déremboursés. Nous sommes convaincus qu'ils sont efficaces. Ils seront notamment efficaces probablement dans le LEIT. Et je pense notamment au Dénépésil, la Ricept. Je dis ça parce que c'est un travail que nous avons fait à la Salpêtrière et au niveau national. Tu y as participé aussi quand tu étais à Lille. On a montré que la Ricept avait un effet sur le ralentissement de l'atrophie de l'hippocampe. Donc je crois que c'est vraiment un médicament qui peut être proposé dans ces cas-là. Je pense que les autres ont probablement le même effet. C'est un effet de classe, mais on l'a montré pour celui-là, donc je conseille plutôt celui-là.
Olivier de la Doucette, quelle est la différence entre une maladie d'Alzheimer et une maladie et un trouble amnésique? Est-ce que c'est bien ça? Un trouble, une amnésie, est-ce qu'on vous... Des pertes de mémoire qui ne seraient pas associées à la maladie d'Alzheimer?
Alors, comme l'a dit Stéphanie Bonbois, 50% des personnes qui consultent dans les centres mémoire n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Hein, notre mémoire, c'est un outil extrêmement complexe et qui est assez sensible à pas mal de paramètres. On peut avoir des troubles de la mémoire sans avoir une maladie d'Alzheimer, tout simplement parce qu'on avance en âge. Vous avez tous remarqué, à partir de 50, 55 ans, vous aviez un petit peu plus de difficultés, par exemple, à énoncer des noms propres. Il vous arrivait de temps en temps de perdre plus souvent vos clés, d'entrer, d'aller d'une pièce à l'autre et de ne plus savoir très bien ce que vous alliez faire dans cette pièce. Hein, ça nous rappelle tous quelque chose. Et ça, ce sont des choses qui sont assez normales, qui sont liées au vieillissement cognitif, mais qui font qu'on peut continuer à apprendre une langue étrangère jusqu'à pas d'âge. Ça prendra plus de temps, mais on peut y arriver. Donc notre mémoire vieillit, mais très lentement, et il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Elle peut être perturbée aussi par d'autres phénomènes. On a évoqué le burn-out, vous avez vu qu'il y avait parmi les symptômes les troubles cognitifs. La dépression, par exemple, eh bien, est une maladie qui perturbe fortement le fonctionnement de la mémoire. Car quand on est déprimé, on n'est pas attentif. Et tout ce qui altère l'attention fait que, pour prendre des phrases de tous les jours, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, parce qu'on n'est pas attentif. Donc quand on n'est pas attentif parce qu'on pense à autre chose ou qu'on a le cerveau vide, eh bien, on a du mal à mémoriser et on oublie ce que les gens vous disent. Donc, beaucoup de personnes qui consultent ont souvent des problèmes ou d'anxiété excessive ou de dépression. Donc ça, c'est très important, d'autant plus que quand on avance en âge, eh bien, on a peur de l'Alzheimer, donc on peut être parfois excessivement anxieux ou on peut avoir des troubles dépressifs parce qu'on a perdu des proches ou parce que la vie devient difficile à la suite de problèmes de santé physique. Alors, il faut tenir compte de ça. Il y a d'autres pathologies, on peut avoir des insuffisances thyroïdiennes, d'autres choses, des médicaments qui peuvent altérer le fonctionnement amnésique. C'est la raison pour laquelle, eh bien, si vous ne savez plus très bien où vous avez garé votre voiture ou que vous oubliez vos clés, avant d'envisager Alzheimer, rassurez-vous. Hein, vous avez des tas de bonnes raisons d'oublier les choses. Et je vous rappelle cette phrase de M. de La Rochefoucauld au XVIIe siècle, pour vous dire que ça ne date pas d'hier, qui disait, cette phrase que j'aime beaucoup, « Tout le monde se plaint de sa mémoire, mais personne de son jugement. »
Je vais essayer de balayer quand même un grand nombre de questions. Professeur Dubois, la thérapie génique a-t-elle été envisagée dans le traitement de la maladie d'Alzheimer? Et la même personne nous demande pourquoi la fréquence de la maladie est plus faible en Afrique et dans certains pays d'Amérique latine. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux notamment?
Alors non, la thérapie génique n'a pas été envisagée. Elle est plus fréquente, elle est moins fréquente dans certaines maladies, dans certains pays et notamment l'Afrique, parce que c'est une population qui est plus jeune. Et comme c'est une maladie qui est naturellement associée à l'âge et qui devient fréquente quand les gens ont plus de 70 ans, si vous voulez, 75 ans, évidemment, ce n'est pas le cas en Afrique, puisque la moyenne d'âge est très au-dessous. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la maladie d'Alzheimer a été hors des radars en France jusqu'à l'an 2000. parce que l'espérance de vie était au-dessous de l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. Et maintenant, on arrive à cet âge-là, bravo, c'est bien, grâce aux conditions d'hygiène, grâce à l'efficacité de la médecine, d'une façon générale, et la maladie devient apparemment fréquente en France. Elle ne l'est pas encore en Afrique, mais malheureusement, elle le sera dans 30 ou 40 ans, lorsque ces pays atteindront notre niveau de qualité de santé.
Et donc un vieillissement de la population. Est-ce qu'on peut imaginer un traitement basé sur le mécanisme de la résilience cérébrale ?
Ça dépend de ce que vous entendez par résilience. Si vous entendez une résilience psychologique, non. Il y a malheureusement des altérations structurelles irréversibles, et ça ne relèvera pas de la... de mindfulness ou de choses comme ça. En revanche, ce qu'on essaie de faire avec les traitements, c'est un peu ça, c'est d'essayer de faire une sorte de résilience cérébrale de fait, c'est-à-dire d'empêcher l'aggravation lésionnelle. Mais ça, c'est de la pharmacologie.
Dernière question pour vous, l'échelle FASECAS pourrait-elle servir dans la prévention de la maladie d'Alzheimer ?
Je vais passer la parole à la spécialiste de l'échelle de FASECAS, Yasmine.
Alors, l'échelle de FASECAS, c'est une échelle qui permet en fait de regarder les lésions de substances blanches. Les lésions de substances blanches, c'est donc la substance blanche, c'est la substance cérébrale qui est en dessous de l'écorce cérébrale. L'écorce cérébrale, c'est les neurones, hein, donc la substance grise. La substance grise, les neurones ont des projections qui se font donc via cette substance blanche. Cette substance blanche, elle est parfois altérée, et à ce moment-là, en IRM, elle donne des hypersignaux dans la substance blanche, et ces hypersignaux sont évalués par cette échelle de FASECAS. Voilà, donc ça, c'est pas très simple de vous expliquer sans
on est très technique là, mais on a des, voilà. On a des spécialistes
très,
dans la
très,
salle.
Très technique, effectivement. Donc, la maladie d'Alzheimer en elle-même ne donne pas de lésions de substance blanche, mais elle est associée assez fréquemment à une maladie vasculaire des vaisseaux qui s'appelle l'angiopathie amyloïde et qui, elle, altère le drainage sanguin et donc donne ces lésions de substance blanche. Donc, on ne peut pas juste regarder les lésions de substance blanche pour faire un diagnostic et traiter la maladie, mais ça va avec et c'est des choses qu'il faut regarder.
C'est un élément pour vous ?
Pour moi, c'est un élément même important à regarder.
Dernière question pour vous, Stéphanie. Le lecanemab, on nous demande quelles sont les statistiques sur les éventuels effets secondaires. Est-ce qu'il y a un chiffre à retenir sur ce nouveau médicament ?
Les effets secondaires, le professeur Dubois en a parlé tout à l'heure, c'est des œdèmes cérébraux et puis des petites hémorragies qui parfois et exceptionnellement sont beaucoup plus larges et qui donnent un AVC hémorragique. Donc là, c'est moins de 1% des cas. Les effets secondaires du lecanemab, c'est un peu plus de 20% des cas, et ça fait un peu la gravité de ce traitement qui nécessite du coup de bien cibler les personnes qui pourront adopter, chez qui on pourrait donner ce traitement, et surtout une surveillance des symptômes, en sachant que la plupart des effets secondaires hémorragiques ou œdémateux sont dans près de 80% des cas asymptomatiques, mais qui nécessitent du coup une surveillance radiologique avec des IRM répétés.
Donc savoir plus précisément à qui on va le prescrire et qui on va suivre, hein, comme nous l'a bien expliqué le professeur Dubois. Merci beaucoup. Je suis désolée, il y a encore beaucoup de questions. Peut-être que sur les stands en fin de conférence, on va pouvoir se retrouver et continuer à avancer.